VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Conakry, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Le Gabon envisage une loi d'amnistie pour les responsables des violences post-électorales de 2016. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Emmanuel Issozine Gondé dans une interview à plusieurs médias. Les précisions de John Lindon.
Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba nous a demandé d'envisager une loi d'amnistie qui traiterait au cas par cas certaines situations engageant des personnes qui se seraient rendues coupables de violences durant la crise post-électorale de 2016, a déclaré M. Issose Ngonté. Une commission nationale sur les violences électorales va être mise en place, a ajouté le Premier ministre. On n'a pas besoin d'avoir parallèlement à cet effort national une initiative venant de la communauté internationale, a poursuivi le Premier ministre gabonais. L'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon le 31 août 2016 avait provoqué des violences inédites au Gabon, manifestations anti-Bongo, interpellations par centaines, assemblées incendiées, assauts des forces de sécurité contre le QG de Jean-Ping, principal rival du président sortant. Malgré cette annonce, le chef du gouvernement a dit rester attentif à l'enquête judiciaire visant Pascal Ouyougou, un opposant inculpé mardi pour complot contre l'autorité de l'État et déféré à la prison centrale.
En Guinée, au moins une personne a trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessés à Boké, centre d'exploitation de la bauxite dans le nord-ouest du pays. Les forces de sécurité y ont ouvert le feu mercredi pour disperser une manifestation. Eric Manirakiza.
Les habitants de Boké ont protesté contre le problème d'accès à l'électricité. Ils considèrent qu'ils ne profitent pas de la manne minière alors qu'ils sont victimes de la pollution liée à l'exploitation. Hier, ils ont bloqué les rues pour empêcher les travailleurs de se rendre dans les mines. Les forces de l'ordre sont intervenues, faisant un mort et des blessés. Le directeur général de la société minière de Boké, Frédéric Bouzigué, a dit sentir la tension monter, ses employés n'ayant pas réussi à retourner au travail. La compagnie bauxite de Guinée, CBG, a subi le même sort. Le porte-parole du gouvernement d'Amantang, Albert Camara, a assuré que des mesures ont été prises pour restaurer le calme, mais il a reconnu que la situation est difficile. Boké a connu des vagues d'émeutes fin avril qui ont paralysé cette localité. Les manifestants, essentiellement des jeunes, avaient détruit plusieurs bâtiments publics. Un manifestant avait été également tué pendant l'intervention des forces de sécurité.
Au Togo, les partis d'opposition ont annulé leur meeting d'information annoncé pour ce vendredi à Lomé pour encourager, disent-ils, une plus grande mobilisation des populations lors des manifestations prévues la semaine prochaine. Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, ces formations accusent le régime du président Faure Gnassingbé de s'enfermer dans un entêtement et dans la diversion après les débats à l'Assemblée nationale en début de semaine. Pour sa part, la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont Faure Gnassingbé est le président en exercice, a invité le pouvoir et l'opposition au dialogue. Le président de la commission de la CDAO, Marcel Alain Dassouza, s'est rendu à Lomé, où il a été reçu en audience par le président togolais avant de s'entretenir notamment avec les leaders de l'opposition et des dignitaires religieux.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Sénégal, la nomination d'Aliou Sall, frère du président Macky Sall, au poste de directeur général de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, fait encore des vagues. Les journaux sénégalais ont tiré à boulet rougière sur ce qu'ils qualifient de népotisme. Aliou Sall, qui est aussi maire de Guédiéway, dans la banlieue de Dakar, est donc depuis lundi à la tête de la CDC, puissant bras financier et économique du gouvernement sénégalais. Plus de détails avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Dakar.
Le casse-tête du frère, titre le journal Enquête qui souligne que cette nomination va donner du grain à moudre à ceux qui dénoncent l'omniprésence de la famille dans les affaires de l'État. Dans le quotidien, l'opposant Malik Gakou dit que c'est une déclaration de guerre contre les intérêts du pays. Macky à l'épreuve du partage du pouvoir, titre Sud quotidien, alors que Wal Fadjiri estime que le président Sall contredit le candidat Macky. Réaction des Sénégalais.
Mais c'est pas la deuxième fois que M. Macky Sall nous fait ce qu'on appelait de Ablaye Watt le Wahouahed. Il avait promis de réduire son mandat à 5 ans, ça n'a pas été fait. Il avait dit également que tant qu'il serait au pouvoir, il ne signerait jamais un décret de nomination de son petit frère. Pour un poste aussi stratégique, parce que la caisse de dépôt et consignation, c'est une affaire de 600 milliards de francs. Qu'on nomme son petit frère, ça pose la problématique du népotisme dans les pays africains. C'est mon ton beau-frère, ton petit frère, ton beau-père aussi, qui est PCA de Petrosen. Tout ça, ça a des relents de népotisme.
C'est normal, dans la mesure où son frère vraiment a les compétences. Parce que dans un pays, pour vraiment pouvoir assurer la bonne gouvernance, ce qui est important, ce n'est pas la question de famille, c'est la compétence. Que ce soit son frère ou que ce soit quelqu'un d'autre, l'essentiel qu'il puisse gérer ça et qu'après son mandat, qu'il puisse vraiment montrer aux Sénégalais que la preuve pour laquelle il a été choisi, elle vaut la peine.
J'évite toujours de parler politique. C'est une position personnelle. Moi, je n'aime pas trop parler de politique.
Ce qui est mauvais, c'est juste que pour des raisons familiales ou autres, un pays comme le Sénégal, l'économie, c'est quelque chose de sérieux. Quand on a besoin de l'aide aux femmes qui sont au niveau des campagnes, l'aide aussi aux gens qui sont dans le monde rural. Et pour ça, il faut que les choses doivent être sérieuses. La nomination des postes doit être au titre du diplôme, mais pas au des problèmes familiaux ou bien quelque chose de ce genre.
C'est pas quelque chose d'étonnant parce que il y a une tendance au patrimonialisme des leaders africains, comme on l'a vu quand Wade avait nommé son fils ministre de tout ce qui tombe du ciel. Cette tendance est extrêmement négative. Ça montre que ce qui préoccupe ces dirigeants, soi-disant des pays africains, ce sont leurs intérêts familiaux, leurs intérêts personnels. Comme on est sorti de la colonisation il y a une cinquantaine d'années, on est en train de revivre les mêmes pratiques de prédation que ce qui ont fait de l'Afrique ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Depuis Dakar, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
Afrique du Nord maintenant, Tunisie, adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la corruption. Les législateurs l'ont approuvé, mais en quasi malgré l'opposition de plusieurs députés et de la société civile. Yacouba Ouedraogo.
La loi dite de réconciliation dans le domaine administratif a été approuvée par 117 députés. Plusieurs élus ont boycotté le vote. Devant le Parlement, des dizaines de personnes ont manifesté contre le texte à l'appel du collectif Manish Msama, je ne pardonnerai pas en arabe. Initialement, le projet de loi prévoyait l'amnistie de certaines personnes poursuivies pour corruption en échange du remboursement à l'État, des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Face au tollé, le texte a été revu. Il ne concerne désormais que les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et n'ayant pas touché de pot de vin. D'après le texte, la loi dit vouloir créer un climat propice à la libération de l'esprit d'initiative au sein de l'administration et renforcer la confiance dans les institutions de l'État. Cela n'a pas suffi à baisser la colère des opposants et de la société civile. L'opposition se demande comment l'Assemblée peut débattre de ce projet alors que le code des collectivités locales n'a toujours pas été adopté à 3 mois des élections municipales.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité hors d'Afrique, exaction contre les Rohingyas en Birmanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande aux autorités birmanes de prendre des mesures immédiates pour faire cesser une violence excessive dans l'ouest du pays contre cette minorité musulmane qui fuit en masse vers le Bangladesh voisin. Morgan Guiriek.
À Rangoon, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, qui a annulé un déplacement pour l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, rejette toute critique. Elle a fait savoir qu'elle sortirait publiquement prochainement de son silence. Le Conseil de sécurité a souligné la nécessité d'un accès humanitaire aux Rohingyas. Ses membres appellent le gouvernement birman à tenir ses engagements de faciliter l'aide dans l'état de Rakhine. L'ONU et les ONG n'ont accès à la population Rohingya qu'au Bangladesh. Plus de 379 000 d'entre eux se sont réfugiés dans ce pays limitrophe de la Birmanie depuis fin août. Et des milliers d'autres seraient toujours sur les routes. La répression de l'armée birmane fait suite à des attaques de rebelles Rohingyas. Peu avant la déclaration du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé la Birmanie à suspendre ses opérations militaires contre la minorité Rohingya, considérant que les autorités se livraient à un nettoyage ethnique.
Et pour terminer ici aux États-Unis, le président Donald Trump est attendu ce jeudi en Floride, état sévèrement frappé par la tempête Irma et endeuillé mercredi par l'annonce de la mort de 8 pensionnaires d'une maison de retraite, vraisemblablement en raison de l'absence d'électricité, actuellement très rare dans les régions sinistrées. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.